Dossier, page 7 à 10. Gardez le moral. Comment chasser le stress et l'anxiété qui nous guettent en hiver? Cette question particulièrement d'actualité, beaucoup se la posent sans trouver de solution. Nuit sans sommeil, surcharge de travail, avenir incertain, etc. génèrent de l'angoisse. Pour préserver sa santé mentale et retrouver confiance en soi, la solution réside, comme toujours, dans un bon équilibre de vie. Dossier réalisé par Léa Vandepute. Les séances chez le psychologue bientôt remboursées. Les consultations d'accompagnement psychologique seront remboursées par l'assurance maladie au début de l'année 2022. Le dispositif sera accessible à partir de l'âge de 3 ans, dans la limite de 8 séances, à condition d'être adressé par son médecin et de consulter un psychologue conventionné. Le bilan initial, d'une durée de 55 minutes, sera pris en charge à hauteur de 40 euros et les séances de suivi de 30 euros pour 40 minutes. S'exposer à la lumière du jour. En hiver, les journées sont plus courtes, la lumière se fait plus rare et le blues s'installe. On parle alors de dépression saisonnière ou de troubles affectifs saisonniers. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une vraie dépression au sens psychiatrique, mais plutôt d'une baisse de morale. Elle serait liée à la diminution de la luminosité, ce qui perturberait notre horloge biologique. Cette dernière régule l'alternance veille-sommeil sur une période d'environ 24 heures et joue sur le fonctionnement du corps, variation de la température interne, du comportement alimentaire, de la vigilance, etc. La lumière du jour est essentielle car elle lui apporte les informations dont elle a besoin pour donner le bon tempo à tout l'organisme. Pour remettre la pendule à l'heure, il faut s'exposer suffisamment longtemps à la lumière du soleil, dans l'idéal, pendant 1 ou 2 heures par jour. Même en hiver, il ne faut donc pas hésiter à sortir dès que cela est possible. Si cela ne suffit pas, des séances de luminothérapie peuvent alors être utiles. Le médecin pourra vous conseiller sur l'intensité de lampes reproduisant la lumière naturelle de 2500 à 10 000 lux sur la durée et le nombre de séances à réaliser. Page 8. Être secouriste en santé mentale. Face à un proche en détresse, on ne sait pas toujours comment réagir. Alors, pour savoir comment l'aider, il est possible de devenir secouriste en santé mentale. Il faut pour cela suivre une formation d'une durée de 14 heures, accessible à toutes les personnes de plus de 18 ans. L'objectif est d'apprendre aux stagiaires à être attentifs et à reconnaître les manifestations de troubles mentaux, à savoir se comporter pour entrer en contact avec la personne et gagner sa confiance, et à connaître les ressources disponibles pour orienter vers des soins adaptés. Le secouriste est ainsi capable d'intervenir sur le long cours et d'accompagner un ami, un parent ou un collègue confronté à des troubles qui émergent ou qui s'aggravent. Plus d'informations sur le site de l'association Premier Secours en Santé Mentale, PSSM France, site pssmfrance.fr. Prendre un bain de nature pour chasser les idées noires. On l'entend souvent, être en contact avec la nature nous fait du bien. Une étude de l'Université canadienne de Carleton l'a confirmé, contempler la forêt assis pendant 15 minutes permettrait de réduire de 6% le rythme du pouls et de 13% le taux de cortisol, l'hormone impliquée dans la survenue du stress. Alors que la nature et les grands espaces ont manqué à beaucoup de Français pendant la crise sanitaire, et notamment lors des confinements, cela fait une raison supplémentaire d'aller se promener dans un parc, un jardin public ou à la campagne. Délaissez votre smartphone et vos soucis pour aller vous immerger en pleine nature. Rire pour se faire du bien. Pouffer, glousser, s'esclaffer avec ses proches, ses amis ou ses collègues est toujours un moment agréable. Mais si en plus c'est un antistress naturel, il n'y a aucune raison de s'en priver. Le rire joue en effet sur les hormones. Il augmente le taux d'endorphine, hormone aux propriétés analgésiques, et à l'inverse, il limite la sécrétion de cortisol, responsable du stress. Après l'éclat de rire, le corps se détend, se relaxe, ce qui accentue le sentiment de bien-être. Alors, pourquoi ne pas regarder en famille une bonne comédie ou se lancer dans un concours de blagues pour en profiter? On peut même s'inscrire dans un groupe de rire-thérapie, car le rire, qu'il soit forcé ou authentique, procure les mêmes bienfaits. Un outil pour dire stop à la déprime. Développé par une équipe de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, en collaboration avec des professionnels de santé et des patients, Stop Blues est un dispositif destiné aux personnes qui se sentent seules, déprimées, fatiguées ou découragées. Grâce à des quiz, des vidéos, des cartes interactives et des témoignages, elles peuvent faire le point sur leur situation, se renseigner sur les signes qui doivent alerter et trouver de l'aide. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site stopblues.fr ou téléchargez gratuitement l'application sur l'App Store ou sur Google Play. Stop Blues, STOPBLUES. Page 9. Dépression, les signes qui doivent alerter. Simple coup de blues, déprime ou véritable dépression, il est important de bien les distinguer, car la dépression nécessite un traitement précoce pour atténuer plus efficacement les symptômes. Même si ces derniers diffèrent d'une personne à l'autre, on parle d'épisode dépressif quand la personne ressent au moins deux signes parmi les suivants. Une tristesse constante qui dure pratiquement toute une journée et qui se répète presque tous les jours depuis au moins deux semaines. Une perte d'intérêt et de plaisir pour des activités du quotidien et celles qui sont habituellement considérées comme agréables. Une fatigue intense, souvent dès le matin, et qui ne s'améliore pas avec le repos ou le sommeil, accompagnée d'une impression de manque d'énergie en permanence. D'autres troubles peuvent aussi être présents dans la dépression, une perte de confiance en soi, un sentiment d'inutilité et une culpabilité excessive et injustifiée, une vision de la vie très négative, des pensées autour de la mort en général, une diminution de la capacité de concentration, d'attention et de mémorisation, une dégradation du sommeil, une perte de l'appétit, mais aussi des douleurs, une perte du désir et du plaisir sexuel, etc. Chez les personnes âgées, la dépression peut se traduire plus spécifiquement par des plaintes physiques, fatigue, perte d'appétit, repli sur soi, etc., et par des troubles cognitifs, perte de mémoire, problèmes d'attention. Si vous-même ou l'un de vos proches souffrez de ces symptômes, il faut absolument consulter un médecin. Celui-ci pourra établir un diagnostic et proposer des solutions. S'activer et se sentir mieux. Parmi les bonnes habitudes de vie à adopter pour augmenter son niveau de bien-être, l'activité physique est fondamentale. Plusieurs études ont montré qu'elle avait un effet positif sur le moral. S'activer apporte à la fois une distraction mentale, on se vide la tête et on oublie ses soucis, et un plaisir corporel lié aux sensations physiques. Cela fait baisser l'anxiété, permet d'avoir une meilleure image de soi et de son corps, en plus d'améliorer la condition physique et le tonus musculaire. Quand on bouge, on sécrète des endomorphines aux propriétés analgésiques, mais aussi de l'adrénaline, de la dopamine ou encore du cortisol qui ont pour effet de stimuler l'organisme et de provoquer une sensation d'euphorie. L'activité physique réduit les symptômes de dépression et d'anxiété, indique même l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Pour profiter de ces bienfaits, cette dernière recommande ainsi de pratiquer chaque semaine de 2h30 à 5h d'activité d'intensité modérée ou de 1h15 à 2h30 d'activité d'intensité soutenue. Ensuite, à chacun de trouver ce qui lui convient et qui le motive, marche, vélo, course à pied, natation, voire jardinage ou bricolage, etc. Tout est bon pour garder le moral. Rester en lien avec les autres. La pandémie l'a durement rappelé. L'isolement et la solitude ont des effets néfastes sur la santé mentale. Être seul génère du stress. Et si le bonheur, c'était les autres, passer un moment avec sa famille, appeler un proche ou se retrouver pour partager un repas, par exemple, sont autant d'activités bénéfiques pour le moral, et ce, quel que soit son âge. Des études sur les personnes âgées ont démontré que celles qui interagissaient davantage avec des membres de leur famille et des amis proches, ainsi qu'avec des connaissances, des fournisseurs de services et des étrangers, étaient plus souvent de bonne humeur. Être en contact avec les autres nous stimule et nous aide à nous sentir bien. Cultiver ces relations sociales serait donc l'une des clés du bonheur. Page 10. En illustration photographie de Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, qui a publié « Des âmes et des saisons » aux éditions Odile Jacob. Comprendre ce qui nous arrive est un précieux facteur de résilience. On ne présente plus Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre qui a développé le concept de résilience. Il nous prodigue ses conseils pour nous aider à rebondir après la crise et les confinements que nous avons traversés. Le mutualiste. L'épidémie de COVID-19 a bouleversé nos vies et elle a encore aujourd'hui un impact sur notre quotidien. Est-ce que cette période difficile va laisser des traces? Boris Cyrulnik. Inévitablement, nous avons passé presque 2 ans dans le stress, l'inquiétude. Nous avons été confrontés à la maladie et parfois même à la mort. Nous ne pouvons pas traverser cette période comme si de rien n'était. Notre vie ne peut plus être la même qu'avant. C'est le même phénomène qui se déroule après un incendie, par exemple, quand une végétation différente se met à pousser sur un sol brûlé, mais encore fertile et résilient. Le mutualiste. Les enfants et les adolescents ont particulièrement souffert ces 2 dernières années. Comment peut-on les aider? Boris Cyrulnik. Les enfants sont dans l'ensemble ravis de retourner à l'école, de retrouver leurs copains, et ils vont rattraper très rapidement les retards pris pendant les confinements. En revanche, les adolescents vont avoir plus de difficultés, car ils sont à une période de leur développement où se produit un élagage synaptique. Le cerveau fonctionne mieux avec moins d'énergie. Or, avec le confinement, cette période sensible a été ratée. Pour les aider, il faut les stimuler et les encourager à pratiquer des activités comme du sport, du théâtre, de la musique, des voyages, etc. Il faut aussi les accompagner dans leur quête de sens pour les aider à comprendre ce qui s'est passé et comment accroître leurs facteurs de protection et faire diminuer leur vulnérabilité. Le mutualiste. Quels sont les facteurs qui nous permettent ou, au contraire, nous empêchent d'être résilients? Boris Cyrulnik. Parmi les facteurs de vulnérabilité qui ont mené à l'épidémie de COVID-19, il y a l'hyperconsommation qui a créé des conditions favorables au virus et l'hypercirculation des populations qui l'a fait voyager partout dans le monde. Dans les zones où il y a en plus une hyperdensité, le moindre virus peut déclencher des épidémies mortelles. Le changement est alors le facteur qui peut nous protéger. Nous allons notamment devoir changer d'économie sanitaire pour faire face à la hausse du nombre de burn-out chez les soignants, revoir la manière de pratiquer la médecine pour préserver la vie de famille des médecins, modifier les filières de formation pour qu'elles correspondent mieux aux attentes des jeunes et des entreprises, ou encore développer l'art de la maison. Certains ont en effet découvert le plaisir d'être chez soi et de cuisiner, mais d'autres, qui vivent dans des logements plus petits, ont été confrontés à la promiscuité, voire à la violence qui a bondi dès les premières heures du confinement. Le mutualiste. Le changement peut faire peur. Comment peut-on réussir à le percevoir comme un événement positif? Boris Cyrulnik. Le changement peut en effet faire peur. Il va stimuler une partie de la population et, au contraire, être source d'anxiété pour une autre partie. C'est pour cela que la vulgarisation scientifique, la discussion et le dialogue sont nécessaires. Ils nous permettent de comprendre et de maîtriser la situation. Comprendre ce qui nous arrive est un précieux facteur de résilience. Propos recueillis par Léa Vandeput.